Le 10e anniversaire du plan bâtiment durable, en direct de la SMA BTP à Paris, mercredi 6 février 2019.
Bonsoir à toutes et à tous. On est ici, bien sûr, au siège de la SMA BTP, qui est l'hôte, effectivement, qui accueille un anniversaire. Faut-il dire que c'est un moment peut-être d'émotion, de fêter un anniversaire, de fêter ses 10 années de ce formidable outil qui a été créé, initié par Jean-Louis Borloo, qui l'a voulu aussi, il faut le dire. Il est allé sur le plateau, on a fêté les 10 ans du plan bâtiment durable, n'est-ce pas Eric?
Absolument.
Et nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau, il faut le dire, on n'est pas très objectif parce que nous l'aimons, c'est quelqu'un qu'on apprécie particulièrement. Alors il fait toujours le même geste, hein, vous avez remarqué, mais il est là, toujours présent, et on en est très heureux. C'est bien sûr Philippe Pelletier.
Bonsoir Sylvain.
Ça va Philippe?
Président du plan bâtiment durable depuis 10 ans.
Bonsoir.
Depuis l'origine, bonsoir.
Depuis 10 ans.
Et merci de votre accueil ici parce qu'on a passé une formidable soirée.
Quel chemin parcouru, oui.
Alors, vous êtes venu il y a quelques semaines nous présenter, on vous a écouté tout au long de ces 4 dernières semaines, nous parler du plan bâtiment durable, de l'histoire, de comment il est né, de ce que vous aviez déjà fait, de ce que vous avez encore à faire, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est que, quelle que soit la couleur politique de nos gouvernants, ils ont compris que le plan bâtiment durable, c'était important.
Oui, parce que on est bien servi par l'air du temps. Qu'est-ce qui se passe,
au sens propre du
qu'est-ce
terme,
qui se passe en ce moment dans la société française? C'est un besoin de dire son mot, un besoin de participer à la construction du projet social. Lorsque on demande de développer le référendum d'initiative citoyenne, c'est bien qu'on veut pouvoir se prononcer sur des sujets qui sont structurants pour l'avenir. Et le plan bâtiment durable, avant l'heure, c'est ça qui a été mis en œuvre par l'État. C'est une sorte de main tendue vers tous ceux qui représentent l'expertise, l'expérience sur les territoires pour que, à partir de leur délibération collective, se dégagent des consensus qui puissent ensuite se transformer en projet d'action pour le pouvoir politique. C'est aussi simple que ça. Et donc, on est bien dans l'air du temps parce que, encore une fois, cette mobilisation des territoires, du terrain, de la base, de ceux qui sont tous les jours dans la vie réelle, elle est là pour définir et porter ce que les gouvernements reprendront pour l'étendre au plus grand nombre. Voilà, c'est ça à quoi on sert. Donc, je trouve que l'idée était un peu neuve en 2009.
Clairement.
Elle devient aujourd'hui une idée très fréquentable parce que elle est, encore une fois, dans l'air du temps.
Alors, vous en avez eu, hein, des parcours parfois un peu singuliers dans la vie du plan bâtiment durable. Vous avez eu successivement aussi des ministres qui se sont succédés. Vous en avez rencontré beaucoup, certains que vous avez beaucoup appréciés, d'autres beaucoup moins. Par contre, vous avez toujours tenu le cap.
Oui.
Il y a une constante. Malgré les chapelles politiques, il y a toujours une constante dans la défense du plan bâtiment durable, bec et ongles. Est-ce que, alors, on n'est pas là forcément pour se congratuler, mais quand on fait aujourd'hui la rétrospective sur les 10 dernières années, que de chemin parcouru, ne serait-ce que par l'agrégation, par exemple, des disciplines, des différents partenaires, des sponsors, des mécènes qui vous ont rejoint, qui y ont cru? Parce que ce n'était pas évident de produire au départ, vous le saviez.
Alors, sur le sujet que vous évoquez, qui est principalement l'adéquation qui a pu se faire de manière inégale dans la durée entre un pouvoir politique qui est aux affaires et la mobilisation de la société que nous représentons. Sur ce sujet, il faut dire d'abord quelque chose de tout à fait important, c'est que pendant ces 10 ans, les gouvernements successifs ont maintenu le cap qui avait été fixé au lendemain du Grenelle. Cet objectif, à l'horizon 2050, d'avoir des bâtiments qui, en moyenne, ont une consommation d'énergie de type BBC, qui est la base de la construction de la loi de programmation Grenelle.
Bâtiment basse consommation pour nos auditeurs.
Tout cela n'a pas été changé. Donc le cadre général a été maintenu sous Sarkozy, sous Hollande, sous Macron. Et donc ça facilite grandement les choses. Et alors qu'à un moment du parcours, un ministre ait plus ou moins d'appétence pour travailler avec nous, c'est assez secondaire. Voilà. Et il eût été ingénu que je m'imagine que les 9 ministres du logement, les 8 ministres de l'écologie que j'ai fréquentés,
que vous avez connu,
soient tous plein pot en phase avec ce qu'on porte. Non, non.
Clairement.
C'était une ingénuité. Et donc, ne tombons pas dedans. L'important était la continuité des gouvernements qui maintiennent un cap à cet horizon lointain qui permet de construire une action. Et là, ils ont été exemplaires. Il y a une vraie continuité républicaine.
C'est aussi pour ça que vous avez voulu Emmanuel Wargon pour ouvrir cette manifestation, ce 10e anniversaire, pour l'entendre dire, en tout cas, moi j'y crois et ça va continuer.
Alors, si vous êtes particulièrement attentif, vous aurez observé que 3 ministres ont pris la parole. L'un du temps de Sarkozy, l'autre du temps de Hollande, la troisième du temps du président Macron.
Voilà. Ça s'appelle un œcuménisme politique.
Ce n'était pas complètement le fait du hasard. J'avais pensé que c'était structurant pour notre action de montrer qu'il y a eu pendant toute cette période un accompagnement. En revanche, jamais le plan bâtiment durable n'a porté la moindre attention à la couleur politique des ministres ou à la couleur politique des élus locaux avec lesquels on travaille sur les territoires. C'est un sujet qui nous est complètement étranger. Nous sommes là pour porter des idées, essayer de les mettre en musique avec des hommes et des femmes chargés de responsabilités électives et peu importe leur marque politique, l'important étant qu'ils soient en phase avec nous pour qu'on les aide à porter le projet.
En fait, vous n'avez pas voulu que le plan bâtiment durable devienne un instrument politique.
Non, clairement. Mais il n'a pas été inventé pour ça.
Il aurait pu le devenir dans les orientations ou dans l'opportunisme parfois ou la récupération, mais force de constater qu'effectivement, vous avez toujours veillé à cette neutralité sur laquelle, finalement, si chacun avait des opinions, il les gardait pour soi. Donc, dans une certaine mesure,
nous avons été sensibles à cette neutralité. Nous avons toujours cherché des consensus et nous avons veillé en permanence à notre liberté. C'est-à-dire que j'appelle un chat un chat.
Mais quand vous dites liberté, quoi, en termes
liberté d'expression.
Liberté
d'expression. Liberté de dire ce projet-là, il est bon, on le soutient. Ce projet-là, il n'est pas bon, il faut en changer.
Donc, ce qui veut dire
j'ai
que
j'ai passé mon temps à dire cela.
Vous n'avez jamais eu un ministre de tutelle qui vous a rappelé sur certains sujets en disant ce serait bien que vous alliez là ou plutôt qu'ici, etc. etc.
Non,
ça, on est d'accord. Donc, vous n'avez subi finalement
jamais
aucune pression,
jamais,
ni de messages particuliers, etc.
Jamais.
C'est assez exceptionnel quand on y réfléchit.
Jamais. Mais nous sommes là pour porter les projets gouvernementaux quand nous estimons, ce qui est le cas en ce moment sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments, que c'est un bon projet. Donc nous le portons.
C'est extrêmement intéressant, n'est-ce pas, Eric? Et beaucoup de choses se sont échangées, d'ailleurs.
Et puis moi, une des choses qui me frappe aussi, et vous y revenez à plusieurs reprises, y compris là au micro de Radio Immo et de Bâti Radio ce soir, Philippe Pelletier, c'est le développement du plan bâtiment durable dans les régions. C'est un bel ancrage là aussi, mais il est nécessaire aujourd'hui.
Alors, pour nous, d'abord, ça a été le fruit d'une évolution, parce qu'on peut dire que pendant les premières années, nous essayions de trouver nos marques au plan national, même si on allait beaucoup porter la parole dans les territoires. Et puis nous avons compris que cette mobilisation qui réussissait entre des gens très différents que nous rassemblions au plan national, il fallait la dupliquer dans les territoires. On a pensé que l'échelon régional était le bon échelon, que c'était probablement celui le plus facile à mettre en mouvement, et la moitié des régions ont aujourd'hui un plan bâtiment durable régional. L'objectif que j'ai, c'est qu'il y en ait partout, c'est-à-dire que de dire aux régions, vous rassemblez tous les acteurs de votre secteur dans leur diversité, vous les mettez autour d'une table et vous leur faites définir des objectifs que vous allez porter jusqu'à 2050 en veillant à ce que ces objectifs s'inscrivent bien dans l'objectif national BBC 2050 et zéro carbone 2050 qui est venu s'ajouter avec le plan climat de Nicolas Hulot.
Qu'en pensez-vous justement ? Est-ce qu'on arrivera, comme l'a souhaité Nicolas Hulot, à cette neutralité carbone tant voulue par les uns comme par les autres ?
Alors, je vous fais une double réponse. D'abord, il est indispensable d'avoir des objectifs et que ces objectifs soient exigeants, soient ambitieux.
Certes.
C'est indispensable. On ne peut pas développer une transformation de la société avec des objectifs médiocres. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, nous avons les moyens de notre ambition. C'est-à-dire que si il y a de la continuité dans l'action, si l'ensemble des acteurs se mettent au travail, si on accompagne les ménages dans la rénovation de leur logement, nous arriverons à des logements de niveau BBC en moyenne et nous arriverons à une maîtrise du poids carbone en s'approchant du zéro carbone. C'est pas du tout des objectifs farfelus, ce sont des objectifs ambitieux.
Une dernière question, plus globale, plus internationale. Quand on est à la tête du plan bâtiment durable, formidable initiative, effectivement, pour le développement durable, pour la maîtrise, effectivement, et de la rénovation énergétique nécessaire, de la transition énergétique nécessaire, vous êtes d'accord, Philippe Etier, que ça ne peut se faire que dans un mouvement mondial ?
Alors,
Est-ce qu'il n'est pas finalement vain ou ridicule, parfois, que certains pays prennent bien à bras-le-corps cette problématique du climat et de l'énergie, sans qu'il y ait un écho planétaire, puisque ce qui se fait ici peut se faire ailleurs et a une répercussion sur l'ensemble de la planète. On le voit au niveau du climat par rapport aux interactions climatiques avec les difficultés qu'il y a. Je prends simplement un chiffre qui a été publié dont la source est Sébastien Maire, vous savez, qui est haut commissaire à la résilience de la ville de Paris, qui dit que voilà, on passe de 5 jours de canicule en moyenne, on était à 40, entre 36 et 37 degrés, à Paris à 55 degrés en 2050. Et ce sera des périodes de canicule de 30 jours. Mmh. Donc on voit bien en fait que l'interaction justement par rapport au climat et de toutes les actions menées ne peuvent se faire que dans un mouvement mondial, concerté, cohérent. Est-ce que vous pensez, vous, au niveau du plan bâtiment durable, qu'aujourd'hui on est dans une politique avec une masse critique qui a inversé le processus et qui du coup le rend réversible et permet d'espérer pour la planète.
Alors, réponse en trois temps. Premier temps, il est tout à fait certain, et l'exemple que vous venez de donner, comme ceux que Jean Jouzel nous a présentés tout à l'heure, sont absolument significatifs. Il est certain.
Ça peut même être effrayant, que, par ailleurs.
Il est certain que la hausse de la température va provoquer des ravages extrêmes, y compris dans nos pays développés, si on ne se met pas sérieusement au boulot pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Deuxième élément, même si la France représente 1% des consommations d'énergie de la planète, il faut que dans notre champ, à notre mesure, nous soyons hyperactifs pour réduire notre empreinte carbone, serait-ce celle d'un petit pays. Parce que, troisièmement, je crois puissamment en l'effet d'entraînement et en l'exemplarité qui peut se produire. Le plan bâtiment durable, aussi curieux que cela paraisse, a déjà deux émules sans qu'on ait rien fait. Deux émules, l'un d'un pays d'Amérique latine, j'ai oublié lequel, le Mexique. L'autre...
C'est pas neutre, hein, le Mexique.
Le Mexique et l'autre, oui. L'autre, c'est le Maroc. Voilà. Deux pays qui ont dupliqué notre système de mobilisation de la société parce que, à la COP21, j'étais venu, à la demande de Laurent Fabius, j'étais venu présenter aux délégations ce qu'on faisait. Deux pays ont saisi cette opportunité. D'autres pays vont le faire, mais ça veut dire quand on met en mouvement la société et les acteurs, on a un engrenage qui se déclenche.
Quand vous dites le Mexique, c'est hautement symbolique.
Voilà.
Quand on voit que la ville de Mexico est considérée comme une des villes les plus polluées au monde, sur lesquelles les problèmes du climat sont réels, je trouve symboliquement, ça a vraiment du sens. Donc finalement, vous restez toujours résolument positif.
Il faut. Nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas le temps d'être pessimistes.
Mais pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, cette mondialisation, bah, ça passe par la base. Finalement, c'est pour ça aussi que vous allez sur le terrain des régions et des...
Alors ça, j'en suis absolument convaincu. Et je crois que le grand débat national
du plan bâtiment durable en direct de la SMABTP à Paris,
va inciter
mercredi 6 février 2019
le gouvernement à décentraliser davantage et sur nos sujets, à donner la main aux territoires qui peuvent conduire les dynamiques de l'action bien mieux que à partir de d'une administration centrale.
D'ailleurs, Philippe Etier, vous avez fait le plaisir, lorsqu'on a fait la présentation de la grille de programme 2018-2019, vous l'avez dit sur scène, vous avez parlé de capillarité récurrente, de pédagogie, et que ça ne se fera et ça ne pourra se faire que dans les territoires. Et force de constater, effectivement, vous avez raison, il faut continuer comme ça. Merci Philippe Pelletier.
Et nous, on va continuer à suivre, bien sûr, l'action du plan bâtiment durable, ne serait-ce qu'avec l'émission mensuelle que l'on peut écouter sur Bâti Radio. On en a fait plusieurs déjà avec Philippe Pelletier pour nous présenter justement les actions du plan bâtiment durable.
Merci. Voilà. Merci à vous deux et merci à Bâti Radio. Et à Radio Immo
et à Radio Immo
de nous donner cette plateforme qui nous permet de continuer à faire circuler les idées.
Mais vous savez, si on existe aussi, Philippe, c'est parce que aussi vous y avez cru, vous nous avez aidé. Une voix qui émet, c'est aussi une personne qui entend. Voilà. Donc merci encore une fois de votre soutien. On sera toujours à vos côtés. On sera aussi la voix du bâtiment, du plan bâtiment durable. Merci.
Et
bien
alors à très bientôt.
À très bientôt.
Le 10e anniversaire du plan bâtiment durable en direct de la SMABTP à Paris, mercredi 6 février 2019.